Il est 8h.
Lorsqu'il n'y a toujours pas cette prise de conscience et que le sport national saura comment détourner les mesures proposées pour que cette épidémie soit à peu près contenue, on sera en difficulté.
L'appel très fort ce matin sur Europe 1 du docteur Patrick Goldstein, chef des urgences au CHU de Lille. Il appelle chacun d'entre nous à adopter des comportements responsables face à une épidémie de coronavirus par endroits incontrôlables. L'exécutif sommet de réagir, réunion de deux conseils de défense aujourd'hui et demain. On se dirige vers un durcissement des mesures, lesquelles nous vous donnons les pistes. Nous serons en Turquie dans ce journal. La presse, la population, comment le pays réagit-il à la montée de tension entre Paris et Ankara? Nous serons aussi aux États-Unis à tout juste une semaine du scrutin présidentiel. Nous sommes en Géorgie ce matin et le défi de Donald Trump, entretenir la flamme des conservateurs dans cet État du Sud.
Juste après ce journal, les tensions franco-turques, la surenchère d'Erdogan et la réponse européenne, mais aussi l'organisation d'un islam de France en France pour lutter, mieux lutter contre la radicalisation. C'est l'homme qui connaît ces questions par cœur, auteur du rapport La fabrique de l'islamisme pour l'Institut Montaigne. Je reçois Hakim El-Karaoui à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À quelques heures de l'annonce de nouvelles mesures restrictives face au coronavirus, c'est un cri d'alarme, un cri de colère même, qui est lancé ce matin sur Europe 1.
Patrick Goldstein, chef du service des urgences au CHU de Lille, dont la région est particulièrement touchée. Il était ce matin l'invité du 5-7 d'Europe 1. Il lance un appel à chacun d'entre nous, un appel à la responsabilité.
La seule chose dont je suis sûr, qui est le simple couvre-feu sur la métropole lilloise, aujourd'hui est insuffisant. Toutes les mesures, aussi bonnes qu'elles soient, pour avoir un effet, doivent être appliquées. Et lorsqu'il n'y a toujours pas cette prise de conscience de « il se passe vraiment quelque chose de très très grave, mais faites gaffe quoi, mais faites gaffe !» Lorsque les gens n'auront toujours pas compris et que le sport national saura comment détourner les mesures proposées pour que cette épidémie soit à peu près contenue, on sera en difficulté. Donc on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, mais il faut absolument qu'elles soient respectées. Le problème n'est pas à boire un verre de plus entre 18 et 21 heures pendant les 2 ou 3 mois qui viennent. Il faut qu'on puisse rapidement inverser la tendance. Sans ça, on ira vers une vraie saturation du système de santé, on ira vers un confinement généralisé, et on ira vers des vacances et des fêtes de fin d'année qui seront tous sauf des fêtes familiales.
Le docteur Patrick Goldstein, chef du service des urgences au CHU de Lille, invité ce matin de Simon Rubin.
Plus de 26 000 nouveaux cas détectés hier, plus de 2 700 malades en réanimation. On se dirige vers un durcissement des mesures.
Bonjour Adrien Beck.
Bonjour.
Réunion de deux conseils de défense autour d'Emmanuel Macron. Le premier dès ce matin, le second demain. Durcissement des mesures, oui. Mais de quel ordre? Quelles hypothèses sont à l'étude aujourd'hui?
Alors on est plutôt en fait dans des nuances de gris que dans des mesures radicalement différentes. Les possibilités sur la table, fermer les commerces non essentiels, avancer le couvre-feu à 19h, l'élargir à tout le week-end, journée comprise, ou carrément confiner certaines zones où la situation est très dégradée, avec en tout cas l'espoir d'arriver à maintenir les écoles ouvertes. Voilà la palette, elle sera discutée ce matin en Conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. Des pistes présentées ensuite en fin d'après-midi aux patrons de partis politiques et de groupes parlementaires, aux élus, puis dans la soirée aux partenaires sociaux, car l'exécutif sait que l'adhésion de la population passera aussi par celle des élus et corps intermédiaires. Demain matin, donc, nouveau conseil de défense. Cette fois, il s'agira de trancher et il faudra bien regarder qui fera les annonces. Petites annonces, ce sera Castex. Grosses annonces, ce sera Macron, croit savoir un conseiller, pour des mesures qui pourraient entrer en application très vite, dès cette fin de semaine. On le voit, accélération du chef de l'État avec l'objectif d'enfin arriver à prendre le virus de vitesse.
Les explications d'Adrien Beck, vous parliez des établissements scolaires qui pourraient rester ouverts avec protocole sanitaire renforcé et demi-classe en lycée.
Autre hypothèse, le télétravail. Le gouvernement pourrait l'imposer, ou en tout cas fortement l'encourager.
Pendant le confinement du printemps dernier, il a concerné plus d'un quart des salariés du privé. Où en est-on aujourd'hui?
La tendance est largement retombée depuis la rentrée. Un reconfinement signifierait un coup d'arrêt pour les entreprises.
Oui, car pour beaucoup d'entre elles, la rentrée avait été synonyme de reprise. Après un déconfinement lent, puis un été haché par les vacances, aujourd'hui, 70% des salariés sont revenus sur leur lieu de travail. Et logiquement, le télétravail à temps plein, lui, ne concerne plus que 12% des employés. C'est ce qu'indique la dernière étude du ministère du Travail. Alors une reprise, oui, mais une reprise encore très fragile. Un salarié sur 3 travaille dans une entreprise dont l'activité est toujours diminuée à cause de la crise sanitaire. Malgré tout, le moral était revenu depuis quelques semaines. En septembre, 28% des salariés estimaient que leur entreprise ne rencontrerait plus aucune difficulté dans les mois à venir. Mais ça, c'était avant le couvre-feu qui a aggravé les difficultés de certains secteurs, notamment la restauration. Et c'est désormais le spectre du reconfinement qui se profile. Une difficulté supplémentaire pour les entreprises qui vont donc être contraintes de se réorganiser rapidement.
Clément Le Saffre, et j'ajoute que cette nuit, les députés ont voté en première lecture le plan de relance censé permettre le rebond de l'économie face à la récession.
8h05 sur Europe 1. Nouvelle provocation de Recep Tayyip Erdogan hier. Il a comparé la situation des musulmans en Europe à celle des juifs avant la Seconde Guerre mondiale.
Après avoir mis en cause samedi et dimanche la santé mentale d'Emmanuel Macron, après la promesse du président français de ne pas renoncer aux caricatures.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Que pensent les Turcs de cette montée de tension entre Paris et Ankara ?
Eh bien, ils sont quasiment au diapason de la presse locale qui affiche en gros titre « Attention, n'achetez pas des produits français, c'est parfois très virulent », où les Européens sont présentés comme « infectés par la haine des musulmans dans le quotidien sabbat ». Donc, selon Ramazan, croisé ce matin dans le quartier d'origine de Recep Erdogan, son président défend l'islam au sens très large.
Il ne le fait pas uniquement pour nous. C'est pour tout le monde. Pour défendre les musulmans. C'est une question d'équité. Il répond à une attaque injuste avec ses caricatures. Il sera toujours là, à nos côtés.
C'est normal de réagir, ajoute Marie, une franco-turque, même si elle désapprouve le parallèle fait entre la situation des musulmans en Europe et celle des juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Moi, ça me fait de la peine que le président de la République de la Turquie, un pays que j'aime, puisse avoir des idées comme ça. Je peux le comprendre. Parce que cette personne, quand elle est arrivée au pouvoir, toute la communauté internationale savait que c'était une personne qui avait des idées religieuses. On le savait.
Ça ne choquera pas son électorat, dit-elle. Au contraire, Recep Erdogan l'a bien compris et c'est l'autre intérêt qu'il trouve à ses provocations. Après quelques revers dans les urnes aux élections locales, il remobilise sa base sensible aux questions de religion.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. Le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France. Une officine islamique contre la République. Les mots de Gérald Darmanin ce matin dans Libération. Collectif cité dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, le ministre de l'Intérieur entend proposer sa dissolution.
Gérald Darmanin qui a aussi demandé la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. Va-t-elle rester fermée ? Le tribunal administratif doit trancher ce matin après le recours d'une association musulmane.
Le recteur avait fait écho sur les réseaux sociaux de l'appel d'un parent d'élève contre l'enseignement de Samuel Paty. En 2016, une mosquée non loin avait elle aussi été fermée pour dérive islamiste. C'est à Stein, elle a pu rouvrir un an plus tard, à condition d'accepter la présence de caméras de surveillance. Pierre Herbulot.
Site placé sous surveillance vidéo. La petite pancarte bleue discrète est accrochée sur la façade de la mosquée.
Caméra partout.
C'était l'une des conditions à la réouverture, raconte Anwar El-Dachori, le dirigeant du lieu de culte.
C'est les préfectures qui m'ont demandé déjà pour les caméras déjà. On est en France, on respecte les lois de France.
À l'étage, dans un bureau privé, la salle de prière apparaît sous tous les angles sur un écran de télévision. Des images que la préfecture peut consulter à tout moment. Pas de problème pour Radel Abdel Fadil, le nouvel imam. Il se qualifie lui-même de modéré.
Ça ne m'agime pas, parce que je suis sûr de ce que je dis. Le respect de la religion et le respect de ce pays. Donc ça ne m'agime pas d'être visionné par les caméras de préfecture. Non.
Un changement d'imam et quelques caméras, une concession tout à fait supportable en échange de la réouverture de la mosquée pour Samy, infidèle.
Il faut relativiser en vrai, c'est pas là. Après, tu as des mecs qui ne vont pas apprécier. Ils vont te dire, ouais, non, mais pourquoi nous, on va dire une mosquée, tu mets des caméras, mais tu vas pas en mettre à l'église, tu vas pas en mettre dans la synagogue. Mais personnellement, j'y vois rien de méchant.
Enfin, pour en montrer patte blanche, la mosquée a également nommé une équipe de vigilance, des fidèles chargés de faire remonter tout agissement contraire aux valeurs de la République.
Aux États-Unis, un jour historique pour l'Amérique. La jubilation de Donald Trump cette nuit, la juge Amy Coney Barrett a été confirmée par le Sénat à la Cour suprême et ce, à tout juste une semaine du scrutin présidentiel face à Joe Biden.
Comme tous les jours dans le journal de 8h, votre carnet de la campagne présidentielle, Théo Manval, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en Géorgie ce matin, État du Sud, très conservateur, mais peut-être en train de vaciller. C'est inattendu. Joe Biden est devant dans les sondages d'une très courte tête. Il y sera d'ailleurs en campagne aujourd'hui. Une victoire démocrate serait un séisme pour le camp Trump, qui espère donc mobiliser son électorat avec ce coup de force concrétisé hier soir à la Cour suprême.
Oui, un signal fort envoyé à sa base la plus traditionnaliste. Ici en Géorgie, il n'est pas rare de voir, par exemple, des fidèles se relayer devant les cliniques qui pratiquent des avortements. Margarita y passe plusieurs heures par jour à prier, tenter de convaincre les femmes de renoncer. Alors cette majorité consolidée à la Cour suprême, instance qui tranche sur les questions de société, c'est pour elle un très grand pas.
J'espère que ça permettra de revenir sur la loi autorisant l'avortement. Parce que c'est une loi injuste, une offense à Dieu. Il a créé ces bébés. Et c'est aussi une immense atteinte contre les femmes. Ça crée tellement de douleur.
Dans les locaux de l'association Géorgie pour le droit à la vie, Geneviève Wilson espère aussi qu'il est encore temps pour que ce succès du président déclenche un nouvel élan dans les urnes.
Plus de 3 millions de personnes ont déjà voté ici, donc les gens que ça pourrait mobiliser sont justement en train de le faire. Mais peut-être qu'entendre ça à la radio, ça rappellera à certains qu'il faut aller voter, amener plus de gens. J'espère, vraiment.
Car comme tout le monde, elle a vu les sondages, un point à un demi-point d'avance pour Joe Biden, la Géorgie est en train de se progressiser, entre guillemets, sur fond de lent changement démographique. Les minorités gagnent du terrain, résume Geneviève, et c'est vrai, en 20 ans, la part de la population blanche dans l'État est passée de 70 à moins de 60% quand les Afro-Américains et les Hispaniques représentent plus d'un tiers des habitants désormais. La nouvelle génération de votants ici, c'est celle de Janaya, 20 ans, Afro-Américaine et aux priorités tout autres.
L'égalité raciale, pour moi, c'est la première chose. Un meilleur système de santé aussi, Trump essaye de le démanteler, Biden au contraire veut l'étendre. Et il parle des violences policières contre les gens de couleur. Moi, je suis noire et je n'aime pas sortir, conduire la nuit ici. Je ne me sens pas en sécurité, c'est un enjeu pour notre futur.
Et c'est donc sur des gens comme elle que Joe Biden mise ici. Avant sa venue aujourd'hui, il inonde déjà les radios de spots publicitaires. Mais avant lui, seuls deux démocrates l'ont emporté en Géorgie, Bill Clinton en 92 et l'enfant du pays, Jimmy Carter.
Théo Manval, carnet de campagne tous les jours à 8h dans le journal de 8h sur Europe 1. Théo, vos reportages détaillés, photos à l'appui à retrouver sur Europe1.fr. Et puis tiens, je voudrais vous faire écouter simplement ce petit épisode dans cette folle campagne américaine lors d'une interview télévisée dimanche soir. Le candidat démocrate Joe Biden semble oublier le prénom de son adversaire, Donald Trump.
What kind of country we're gonna be?
Quel pays allons-nous devenir? 4 ans de plus de George. George, on va se retrouver dans une position où si Trump est élu, on sera dans un monde différent.
Ouais. Vous avez entendu George ? Joe Biden m'a appelé George hier soir, il ne pouvait pas se souvenir de mon nom, a tweeté Donald Trump, qui surnomme sans cesse son adversaire Sleepy Joe, Joe l'endormi. Autant vous dire que ça a beaucoup amusé les républicains, les supporters de Trump sur les réseaux sociaux. Et puis le foot, Marseille, Manchester City, deuxième journée du premier tour de la Ligue des Champions ce soir. Ce sera dur pour les Marseillais face à un favori de la compétition. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h autour de Lionel Rousseau. Merci Jérôme Lacroix. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité politique de la matinale, grand connaisseur des questions liées à la radicalisation, à la lutte contre l'islamisme, à l'organisation d'un islam de France, expert aussi de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Dans un instant, Hakim El Karaoui, invité politique d'Europe Matin. À tout de suite.